ensemble, si vous le voulez. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Deux Corinthiens, 4, 1 à 6. Il est écrit, « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, et nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. S'il vous est déjà arrivé de parler du Seigneur autour de vous, vous avez certainement déjà été confronté à certaines difficultés. Et notamment une difficulté auxquelles on peut être confronté quand on parle du Seigneur autour de soi, c'est des gens qui parfois sont complètement fermés, qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, qui ne veulent rien en savoir, des personnes qui changent de sujet dès qu'on parle de Jésus, dès qu'on parle de la religion, dès qu'on parle des choses spirituelles, ça ne les intéresse pas. Il y a des personnes qui sont complètement indifférentes, ça ne leur fait ni chaud ni froid, elles entendent, oui, bon, ok. Il semble que ça ne leur fait rien, et quand on leur parle, on a l'impression qu'on perd simplement notre temps. Il y a aussi des personnes qui sont tellement démunies, tellement en souffrance, qu'elles tendent l'oreille au message en se disant, peut-être que là, je trouverai un peu d'espoir pour ma vie. Mais certainement que si vous avez déjà parlé du Seigneur autour de vous, vous vous êtes déjà aussi trouvé face à une autre difficulté. Ce sont tous les gens autour de nous, qui ont l'air ou qui sont tellement heureux, tellement épanouis, qu'on ne voit pas trop ce qu'ils feraient avec Jésus. Des gens, parfois, qui ont l'air tellement bien qu'on ne voit pas trop ce que Jésus pourrait apporter de plus dans leur vie. Prenons l'exemple d'un couple, on va les appeler Audrey et Gauthier. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Ils ont un super travail tous les deux qui leur plaît, ils ont des bons revenus, ils sont très amoureux surtout, ils s'amusent, ils vont en vacances, ils jouent, ils célèbrent la vie, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont leurs habits à la dernière mode, ils sont heureux, et tout leur réussit, tout dans leur vie leur réussit. Et on se dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jésus ? Comment est-ce qu'ils pourraient s'ouvrir à Jésus alors qu'ils vont si bien, qu'ils sont si heureux alors que tout va bien? Imaginez même des collègues de travail, et certainement vous en avez des collègues de travail qui parfois ont peut-être même l'air plus heureux que vous, qui ont l'air d'être tellement épanouis, ils ont une vie toute tracée, tout roule. Prenons l'exemple de Rita. Rita, c'est une dame de la cinquantaine d'années, elle a deux enfants déjà grands, bien indépendants. C'est une femme qui a un sacré caractère, Rita. Et Rita, elle a une fameuse philosophie de vie, rien ne lui fait peur. Elle a vécu plein de choses difficiles dans sa vie, mais à chaque fois, elle se relève, elle va bien et elle a une devise, Rita. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et ma collègue Rita, malgré ce qui lui arrive, elle ne se décourage jamais. Moi, il m'arrive, comme chrétien, je débarque au travail, je suis tout triste, tout déprimé parce que ça ne va pas, mais Rita, elle, rien ne lui fait peur. Elle est forte et elle est résiliente. Qu'est-ce que Jésus pourrait bien faire pour Rita? Si on prend l'exemple d'Arthur, cette fois-ci c'est un homme de la quarantaine, il est sportif, il est amoureux des voyages, c'est un athée convaincu, Arthur, mais c'est un homme extrêmement généreux. il donne à tout le monde, il ne cesse pas d'aider les autres, il a plein de bénévolat à gauche et à droite. En fait, Arthur, c'est vraiment le don de soi en personne. Il est généreux, il accorde aux autres, il a beaucoup d'amis, et Arthur se dit l'homme le plus heureux du monde. Qu'est-ce que Arthur pourrait bien faire avec Jésus? Et enfin, prenons l'exemple de Véronica. Véronica, c'est une dame qui est bouddhiste. Et elle a complètement intégré le bouddhisme à sa philosophie de vie. Ce qui a pour conséquence que Véronica est une personne très paisible, très profonde. Elle s'énerve jamais. Elle est ancrée en elle-même, elle est ancrée dans ses énergies, elle est bien, elle médite régulièrement, elle parle toujours de façon juste, jamais un mot au-dessus de l'autre, elle est intègre, elle ne tue jamais un animal, elle ne tue jamais un insecte, elle respecte tout le monde, et vraiment, c'est une personne tellement aimable. Lorsqu'on est face à des personnes comme ça, on a juste l'impression qu'ils sont comblés, qu'ils ont tout ce qu'il faut, et on ne voit pas trop ce que pourrait apporter Jésus à des gens qui sont déjà heureux, corrects, intègres, honnêtes, équilibrés, parfois des personnes admirables, plus admirables que des gens de votre église locale. Peut-être pas ici, mais parfois on se dit « Oh, mon collègue, là, quand je le vois, je le préfère encore lui que le frère ou la sœur de l'église, là, qui est tout spécial. » Voilà. On se demande qu'est-ce qu'il ferait avec Jésus. Et pourtant, aussi fou que ça puisse paraître, ça peut paraître une folie furieuse, mais tous ces gens ont besoin de Jésus. Et parfois, comme chrétiens, nous pensons que les non-croyants mentent quand ils disent qu'ils sont heureux. Mais c'est faux. Il y en a qui sont vraiment heureux sans Dieu. Ils sont heureux sans Dieu, ils ont tout ce qu'il leur faut sans Dieu, c'est vrai. Mais malgré cela, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin du pardon, ils ont besoin de la purification, ils ont besoin de la réconciliation avec Dieu. Tous. Autant Audrey que Gauthier, que Rita, que Arthur, que Véronica, tous ont besoin d'entendre parler de Jésus. Parce que eux aussi, aussi heureux soient-ils, aussi bien soient-ils dans leur vie, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et comme dit la Bible, ils sont sous l'empire du péché. Ils sont soumis à l'empire, à l'autorité du péché, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Et le texte de 2 Corinthiens chapitre 4 que nous avons lu nous donne un facteur principal, un facteur déterminant qui empêche les hommes et les femmes de notre génération et de toutes les générations d'ailleurs de se tourner vers Jésus, de reconnaître Jésus, c'est l'aveuglement. Le texte dit que le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, à aveugler leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'Évangile. Le Dieu de ce siècle a aveuglé, a assombri leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'Évangile, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et donc derrière, tous les gens qui peut-être sont très bien sans Dieu, qui sont très heureux sans Dieu, nous avons autour de nous des gens qui, en réalité, ont l'intelligence aveuglée, assombrie par le diable. Et c'est une autorité qu'il a dans le monde, et il obscurcit les intelligences pour que les hommes et les femmes ne se posent même pas de questions spirituelles, ne se tournent même pas vers Dieu, ne cherchent même pas à répondre à des questions de base. Il assombrit leur intelligence. Vous savez qu'il y a des questions existentielles. D'où venons-nous? Où allons-nous? Que sommes-nous? Etc., etc. Eh bien, il y a toute une partie de nos contemporains qui ne se posent même plus la question. C'est quand même un peu important. La majorité des gens ne se demandent même pas ce qu'il y a après la mort, ça ne les intéresse pas. Ils ne se demandent pas d'où on vient. Ce sont des questions qui ont disparu de notre société occidentale parce que le Dieu de ce siècle assombrit les intelligences. Il met un voile sur les intelligences pour que nous ne nous tournions même pas vers Dieu, pour que nous ne nous questionnons même pas sur Dieu, et pour que nous soyons simplement centrés sur nous-mêmes. Et ce voile peut prendre 36 formes. Il y a 36 000 formes de voile qu'il peut y avoir sur les intelligences des hommes et des femmes pour ne pas se tourner vers Christ. Prenons par exemple le voile de la propre justice. Ceux qui pensent que par leurs œuvres et par leurs mérites, ils pourront atteindre le ciel. Et ils se disent que s'ils sont gentils de toute leur force et s'ils se donnent de toute leur force, Dieu n'aura pas d'autre choix que de les accepter. Il y a des gens qui se disent, sans blague, je suis tellement gentil, tellement généreux, que Saint-Pierre, quand il va me voir arriver, hein, imaginons, il va se dire, un homme pareil, je suis obligé de le faire rentrer, il a fait du bien, il a donné aux uns et aux autres, il est extraordinaire. Un homme disait dans un vieux reportage, je suis convaincu que celui qui est bon avec les autres, il est sauvé. Le voile de la propre justice, et le voile de la propre justice, c'est terrible parce que c'est comme être bercé dans un berceau, mais un berceau qui nous conduit à la perdition. Parce qu'on sera sûr jusqu'à son dernier jour, et un jour on se retrouve devant le Créateur, qui lui n'a pas d'égard pour nos petites œuvres, pour nos mérites, mais qui nous met simplement face à notre péché. Le voile parfois des philosophies, il y a des gens, cette fois-ci, des gens qui se posent des questions existentielles, mais qui y répondent avec des courants philosophiques. Et vous devez savoir que certaines philosophies se donnent de façon très honnête le but de remplacer la religion. En d'autres termes, la philosophie, certaines philosophies, c'est quoi? C'est répondre à des questions existentielles, non pas avec un discours religieux, mais avec un discours philosophique. Et donc, si vous lisez des grands penseurs, si vous lisez toutes sortes de penseurs, ils ont des réponses à ces questions. Mais ce sont des réponses aux questions existentielles, mais qui excluent Dieu, qui excluent la Bible, et qui simplement promeut une philosophie, par exemple, une philosophie qui est prégnante de notre génération, c'est l'humanisme laïque. L'humanisme laïque, c'est le fait de se centrer sur l'homme, de se concentrer sur l'homme, sur le bien-être de l'homme, et de considérer que tout ce qui est bon pour l'homme, tout ce que l'homme trouve bon est bien. Et donc l'homme s'autodétermine. L'homme est libre, l'homme est le centre, l'homme, on pourrait dire l'homme est la mesure de toute chose. Si c'est bon pour l'homme, alors c'est bien, c'est l'homme mis au centre. Et pourquoi est-ce qu'on dit humanisme laïque? Parce que quelque part, Dieu peut être considéré comme un humaniste. Dieu prend soin de l'homme, Dieu valorise l'homme. Mais dans l'humanisme laïque, on exclut Dieu et on ne s'occupe que du bien de l'homme. Des philosophies diverses qu'il y a, le nihilisme ou l'absurdité, vous connaissez certainement Albert Camus. Eh bien, Albert Camus est un écrivain qui a beaucoup valorisé le néant, cette conviction que nous allons vers rien, la vie n'a pas de sens, le monde n'a pas de sens. Et des gens de notre monde sont très heureux en disant « mais de toute façon, moi je ne cherche pas le sens, il n'y a pas de sens. La vie est juste comme ça, on vit et puis on meurt et puis il n'y a rien après et on ne s'occupe pas du reste. » Le voile de la raison. Il y a parfois des gens qui sont voilés par la raison. Ce que je ne comprends pas, ce que je ne sais pas, ce que je ne peux pas voir, n'existe pas. Seule ma raison me donne accès à la vérité. Et puis alors un voile très connu et très répandu de notre génération, c'est le voile des plaisirs de la vie. C'est aussi un voile puissant. Le voile de ceux dont le plaisir comble et remplit tellement leur vie. Ils ont des vies tellement pleines de plaisir, ils ont des vies tellement réjouissantes sur terre, dans les choses de la terre, qu'ils ne se préoccupent même plus des choses d'en haut. Vous connaissez ce passage où Jésus dit qu'au temps de Noé, les hommes buvaient, se mariaient, avaient des enfants. Et il dit que dans les temps de la fin, ce sera la même chose. Les gens mangeront, achèteront, se marieront tranquillement, et le Fils de l'homme paraîtra. Alors on avait déjà analysé ce texte et on avait dit qu'en fait, rien de ce que Jésus cite n'est mauvais. Se marier, ce n'est pas mauvais, boire, ce n'est pas mauvais, acheter, ce n'est pas mauvais, vendre, ce n'est pas mauvais, planter, ce n'est pas mauvais, bâtir, ce n'est pas mauvais, ce sont des choses normales de la vie humaine. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que les hommes et les femmes vont être concentrés là-dessus, sur leur petit bibelot terrestre, et qu'ils vont être surpris de voir que tout ce dans quoi ils ont investi sur terre n'a aucune valeur pour la vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus a dit aussi, vous connaissez cette parole, qu'il est difficile pour le riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pas le problème c'est pas la richesse. Le problème c'est que la richesse nous endort et nous attache aux choses d'en bas. Un voile qui existe aussi, c'est le voile de l'aigreur. Vous en connaissez certainement autour de vous, des gens qui sont pleins d'aigreur par rapport à la vie, des gens qui sont pleins d'aigreur par rapport au monde. Ils sont tellement aigris tellement blessés, tellement fâchés contre le monde. Ils sont aigris contre l'injustice dans le monde. Ils sont aigris contre la méchanceté dans le monde. Ils sont aigris contre les guerres, aigris contre les conflits politiques, contre la criminalité. Parfois, des gens qui sont aigris par rapport à leur propre vie, qui trouvent que leur vie a été tellement ratée, qu'ils ont vécu tant de blessures, tant de drames, tant de difficultés, tant de pépins, des gens qui ont l'impression, entre guillemets, d'avoir la poisse. Tant de voiles que les hommes et les femmes de notre temps ont, qui les empêchent de se tourner vers Dieu, de se poser la question de Dieu, de chercher Dieu. Et comme on l'a vu, ce voile, ce n'est pas un voile qui est un simple voile comme ça, ce n'est pas un voile naturel, c'est un voile spirituel. C'est un voile que le diable met sur nos pensées. Et le texte dit dans Jean que la lumière est venue dans le monde, mais que le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Ce voile fait qu'il y a une lumière devant nous, il y a la plus belle des lumières devant nous, mais à cause des voiles que nous avons, nous préférons les ténèbres. Je vous avais raconté ce garçon qui disait, qui avait été croyant, qui avait connu Dieu, qui avait été dans l'église tout petit, et alors il disait « Oui, Dieu, j'y crois, mais je crois surtout au diable, parce que le diable, il est puissant. » Et donc il avait repéré, il n'était pas fermé au monde spirituel, il avait repéré dans le monde qu'il y avait une force maléfique, mais bizarrement, ça l'intéressait plus de connaître les affaires du diable, des ténèbres, que de se tourner vers Dieu. Pensez que il y a plein de pratiques occultes qui sont des pratiques occultes qui coûtent quelque chose aux gens. Dans l'occultisme, c'est pas le plaisir, c'est pas parfois on donne de soi, on donne soit de son argent, on donne de sa vie. L'occultisme prend la vie des gens. Et comment expliquer que notre société est plus intéressée par l'occultisme que par Dieu? Comment c'est possible? Alors que Dieu te demande rien. Dieu, tu dois juste venir à lui, tu dois juste ouvrir ton cœur. Dieu ne nous demande rien, Dieu ne nous prend rien, Dieu nous laisse comme on veut, comme on veut. Et pourtant, les gens préfèrent l'occultisme que de se tourner vers Dieu. On voit que ça, c'est l'œuvre du diable qui pousse les hommes et les femmes dans les ténèbres. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin, que les hommes et les femmes de notre temps ont besoin d'entendre parler de Jésus. Dieu disait, à l'apôtre Paul, enfin Jésus disait à l'apôtre Paul, je t'envoie afin que tu ouvres les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu et pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je t'envoie, Paul, afin que les hommes et les femmes autour de toi qui sont dans les ténèbres passe des ténèbres à la lumière, afin qu'ils passent de la puissance de Satan. Ils sont sous la puissance de Satan. Qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent gratuitement, sans rien faire, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà l'œuvre tellement importante qu'il nous est donnée. C'est d'annoncer ce message et permettre à des hommes et des femmes de déménager des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et malgré l'opposition spirituelle qu'il y a, aujourd'hui encore, les hommes et les femmes ont besoin d'entendre parler de ce message. Parce que très souvent, le problème, voyez-vous, c'est que les gens ont sur leur tête deux voiles. Premièrement, ils ont le voile dont on vient de parler, le voile de l'incrédulité, le voile qui vient du diable. Mais le problème, c'est que beaucoup de nos contemporains ont un voile en plus. Ils ont un double voile, puisqu'ils ont aussi le voile de l'ignorance. Ils ne connaissent même pas le message de l'Évangile. Ils ne l'ont jamais entendu. Donc non seulement il y a le voile d'incrédulité que le diable met, mais en plus il y a un voile du fait qu'ils ne savent même pas, ils ne savent même pas de quoi on parle. La majorité des gens, même qui ont fréquenté des églises, quel que soit le type d'église, ne savent pas répondre à la question « Quelle était la mission de Jésus ?» Si vous allez demander à vos amis qui se disent chrétiens, qui disent, bah oui, moi je suis chrétien, j'ai été baptisé enfant à l'église, demandez-leur, c'était quoi la mission principale de Jésus? La majorité ne savent pas y répondre. La majorité de nos contemporains n'ont aucune idée de pourquoi Jésus est venu sur terre, de pourquoi Jésus est important. Ils ne le savent pas. Et donc non seulement la puissance du diable est là, mais en plus ils ne connaissent même pas l'essence du message de l'évangile. Et donc nous avons deux rôles à jouer, nous, enfants de Dieu. Nous avons premièrement un rôle à jouer par rapport à ce voile d'ignorance, et ensuite un rôle à jouer par rapport au voile de l'aveuglement. Par rapport à l'aveuglement, nous avons à annoncer l'évangile de toutes les manières possibles pour que les hommes et les femmes de notre temps soient au courant de qui est Jésus. Vous savez que très souvent, quand on parle de la mission mondiale, c'est-à-dire de l'évangélisation mondiale, on dit il faut aller rencontrer les peuples non atteints. Donc les peuples non atteints, vendredi, ils nous ont donné le chiffre, hein, ceux qui étaient là vendredi, il a donné le chiffre, mais j'ai oublié. Combien ? Plus de 1000. Donc plus de 1000 peuples sur Terre qui ne sont pas atteints par l'Évangile. Okay ? Donc des gens qui n'ont même pas vu un missionnaire, une Bible, rien du tout. Mais vous savez que le problème, c'est que je me demande parfois s'il ne faudrait pas augmenter ce chiffre-là. Puisque si on considère que toute personne qui n'a jamais entendu clairement le message de l'Évangile n'est pas atteinte, en fait, peut-être que la Belgique, en grande majorité, est un peuple non atteint. Si on vous a juste parlé de Jésus, même si on vous a parlé des histoires de la Bible, ah oui, Jésus a transformé l'eau en vin, etc. Ça, c'est pas le message de l'Évangile. Si on vous a juste dit que Jésus avait fait ceci, c'est pas... Donc, même dans notre génération, nous sommes avec autour de nous des gens qui sont non atteints par la parole de Dieu. Et nous avons donc à annoncer ce message, à annoncer un message, le vrai bon message de l'Évangile. Non frelaté, non transformé, un vrai message. Et dit l'apôtre Paul au début de 2 Corinthiens, nous avons à annoncer un message qui ne soit pas altéré. Nous ne sommes pas là pour annoncer un évangile transformé, altéré, mais pour annoncer le véritable message de l'évangile, pour annoncer la grâce de Dieu à tous les hommes manifestée à la croix, pour dire à tous les hommes que Dieu les accueille. Nous sommes envoyés pour ça, pour dire à tous les hommes que Dieu les accueille, quelle que soit leur origine, quel que soit leur passé, quelle que soit leur moralité, quelle que soit leur condition sociale, quelle que soit leur orientation sexuelle, que Dieu les accueille et que Dieu les aime. Nous avons à annoncer aux hommes et aux femmes autour de nous la repentance et la foi. C'est-à-dire le moyen par lequel on peut obtenir la vie éternelle. La nécessité, premièrement, de se repentir de ses péchés, de reconnaître que l'on est pécheur et de croire en Jésus, le Sauveur. Nous avons à annoncer aux hommes autour de nous la nouveauté de vie. Le fait que celui qui vient à Jésus doit entrer dans une vie nouvelle, avec une nouvelle orientation, des nouvelles valeurs, doit se consacrer à Dieu. Nous avons à annoncer aux hommes et aux femmes autour de nous ce que c'est de vivre en disciple de Jésus. C'est aussi le message de l'Évangile. De devenir des disciples de Jésus, de le suivre au quotidien, de porter sa croix, d'écouter sa parole, d'appartenir à son Église et de se préparer à son retour. Tout cela, c'est le message que nous sommes appelés à diffuser. Alors évidemment, nous n'allons pas le diffuser en une fois à une seule personne, mais ce message doit passer dans notre monde, il doit être véhiculé pour que le voile de l'ignorance tombe. Que le voile de l'ignorance tombe. Par rapport au voile de l'aveuglement, nous avons à prier, à combattre spirituellement, puisqu'il est dit que c'est le Dieu de ce siècle qui a aveuglé les intelligences pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'Évangile. Nous avons à prier pour que ce voile tombe des cœurs des hommes et des femmes qui sont autour de nous, afin qu'ils puissent, comme dit le texte, découvrir la beauté de l'Évangile, découvrir l'évangile de la gloire de Dieu, et que dans cet évangile, il découvre la gloire de Dieu. Nous avons annoncé le message pour que les hommes et les femmes autour de nous découvrent la gloire de Dieu. Nous devons être conscients que lorsque nous annonçons le message de l'évangile, nous ne prêchons pas juste la bonne nouvelle. Nous ne disons pas juste la bonne nouvelle de pouvoir être pardonné. Oui, il y a la bonne nouvelle, mais bien plus, Dans le message de l'évangile, il y a la révélation grandiose de la gloire de Dieu. Dans le message de l'évangile, il y a la révélation de la beauté et de la grandeur de la gloire de Dieu. Dans le message de l'évangile, Dieu se révèle. Ou en d'autres termes, dans le message de l'évangile, nous faisons connaître aux gens le cœur de Dieu. Nous faisons connaître aux gens le cœur de Dieu. Nous faisons connaître aux gens qui est Dieu, ce qu'il veut, quelle relation il veut avec nous. Oui, chaque fois que nous annonçons l'évangile, bien sûr nous annonçons la bonne nouvelle, mais nous présentons à notre monde qui est Dieu, qui est le Créateur. Dans ce message de l'évangile, nous faisons connaître aux gens la parfaite justice et la parfaite sainteté de Dieu. Nous faisons connaître qu'en Dieu, il n'y a rien de ténèbres, il n'y a rien de mensonge, il n'y a rien d'impur, il n'y a rien d'ignoble, que Dieu est parfait, que Dieu est juste, que Dieu est saint. Nous faisons connaître la justice et la sainteté de Dieu dans le message de l'Évangile. Dans le message de l'Évangile, nous faisons connaître la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous faisons connaître que Dieu est le Dieu qui pardonne. Et non seulement il pardonne, mais il ne pardonne pas sur base des mérites, mais sur base de sa grâce. Il n'attend pas nos mérites, mais il pardonne généreusement. Nous faisons connaître que Dieu est celui qui veut faire des cadeaux aux hommes. Le cadeau de son pardon, le cadeau de la purification, le cadeau de la vie éternelle. Dans le message de l'Évangile, nous faisons connaître aux hommes et aux femmes autour de nous la bonté de Dieu. Nous leur faisons connaître que Dieu est le Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin et qui est capable de renouveler nos vies aussi. Ce n'est pas juste un Dieu qui sauve, c'est aussi un Dieu qui peut renouveler nos vies, qui peut faire en nous le miracle d'une vie nouvelle. Le miracle d'entrer dans quelque chose de nouveau. Il est le Dieu qui restaure. C'est ça qu'on doit dire aux gens aussi. On doit leur dire que Jésus restaure. On doit leur dire que Jésus guérit des cœurs brisés, que Jésus ressuscite des morts, que Jésus libère des chaînes. Dans le message de l'Évangile, nous faisons connaître la puissance de Dieu. Dieu ressuscite, rien ne lui résiste, il peut toutes choses. Nous faisons connaître aux hommes et aux femmes la puissance de Dieu. Dans le message de l'Évangile, nous faisons connaître aux gens la vérité de Dieu. Dieu est vrai, c'est le seul et unique Dieu. Il accomplit ses promesses, il fait ce qu'il dit, il est fidèle. On peut lui faire confiance, on peut s'appuyer sur lui. Dans tout cela, dans le message que nous annonçons, nous faisons connaître tout cela aux gens. En un simple message, nous permettons aux gens de découvrir la gloire de Dieu, de découvrir la grâce de Dieu. Tout cela est donné. Nous faisons connaître aux gens que Dieu est un juste juge. Aussi, c'est aussi le message de l'Évangile, que Dieu est un juste juge et qu'il punira tous ceux qui ne seront pas au bénéfice du pardon. Nous faisons connaître aux gens que Dieu est un Dieu dévorant, est un feu dévorant, de qui nous devons nous approcher avec crainte et tremblement. Nous faisons connaître que Dieu est un Dieu exigeant, qui appelle ses enfants à la croissance. Nous faisons connaître que Dieu est un Dieu proche et aimant, c'est un Père proche et aimant. Tout cela que les hommes et les femmes de notre monde ne savent pas, nous l'annonçons lorsque nous parlons de Jésus. Lorsque nous annonçons l'Évangile, nous donnons aux gens qui sont autour de nous le merveilleux privilège de connaître ce Dieu merveilleux. Alors pour conclure, ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 2, 14 à 16, dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? En ce début de programme d'espoir 2023, pas seulement maintenant, mais tout le temps, bien évidemment, mais en particulier dans ce temps, nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu nous utilise pour répandre autour de nous l'odeur de Christ. Et pour répandre ce message, pour répandre le message de la grâce de Dieu, de la connaissance de Dieu, nous pouvons nous réjouir parce que c'est une odeur qui se répand et c'est une odeur surtout dont le monde a besoin. On ne dirait pas, hein, mais le monde a besoin de cette odeur. Ce monde a besoin de l'odeur de l'évangile de Jésus. Nous pouvons nous réjouir aussi parce que alors que nous sommes occupés en tant qu'Église à annoncer le message de l'évangile, nous savons que Dieu nous fait triompher. Ce qui signifie qu'il y a des obstacles, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des empêchements, mais Dieu nous fait triompher en Christ. Dieu nous donne la victoire en Christ pour que cette odeur continue de se répandre. Et par le Saint-Esprit, il nous donne la victoire pour que nous continuions à répandre l'odeur de Christ. Mais aussi, dans ce texte, nous entendons et nous lisons, et nous l'avons lu aussi dans l'autre texte de 2 Corinthiens 4, cette expression « ceux qui périssent ». Nous avons à faire notre travail d'annoncer l'Évangile, mais nous devons aussi savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui périssent et qui périront, c'est le texte qui nous le dit, qui feront le choix de refuser le cadeau qui leur est offert. Et ça ne doit pas nous effrayer. Dans ce programme Espoir 2023, alors que nous allons être heureux et joyeux d'annoncer l'Évangile, ne soyons pas découragés par toute personne qui va nous refuser, qui va nous remballer, qui ne voudra pas de ce qu'on va lui donner. Ne soyons pas étonnés, le texte nous le dit, ceux qui périssent. Il y en a qui périront. Que Dieu nous donne justement cet entrain pour annoncer l'Évangile, sans nous laisser décourager par les obstacles, par les refus, par l'incrédulité, mais en continuant à croire que Dieu, aujourd'hui, change des vies et qu'il appelle des hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est une conviction qui doit nous animer. Dieu, aujourd'hui, à jumelles, appelle des hommes et des femmes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous te remercions parce que nous avons pu avoir ce voile ôté de nos yeux pour te voir, pour te connaître et pour voir la beauté de l'Évangile. Et Seigneur, nous sommes là devant toi à l'écoute de ta parole, reconnaissant pour ce que ta parole nous enseigne, reconnaissant pour la vérité qu'il y a dedans, pour l'autorité de ta parole. Merci Seigneur. Et nous voulons Seigneur te demander de nous aider justement à être justement heureux de ce message de l'Évangile, à être fier, à être encouragé par ce beau message de l'Évangile et à l'annoncer Seigneur. Aide-nous durant les temps qui viennent à annoncer avec force, avec puissance, avec entrain le message de l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, à le faire avec la puissance de ton esprit. Aide-nous à le faire dans l'unité. Aide-nous à le faire avec force. Remplis-nous de toi, Seigneur. Fais de nous des témoins dans tout ce que nous allons faire. Seigneur, et précède-nous, justement, pour que ce message se transmette. Pour que ce message continue d'avancer, pour que l'Évangile à Jumet, à Charleroi, en Belgique aujourd'hui, poursuive sa course. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.